Bonjour à tous. Une semaine décisive pour le gouvernement. Reprise des discussions avec les syndicats qui misent sur une reprise plus forte du mouvement de grève après les fêtes. L'actualité à l'étranger, c'est cette menace il y a quelques heures de Donald Trump aux Iraniens. Si Téhéran s'attaque aux intérêts américains, les États-Unis sont prêts à frapper 52 sites en Iran. À quelques heures du coup d'envoi de la 77e cérémonie des Golden Globes, nous irons en Californie aux côtés de Céline Sciamma et de Ladjly. Leurs films sont nommés dans la catégorie meilleur film étranger. Et puis le sport, Amaya Cazenave reviendra sur l'exploit du club réunionnais de Régional 1 de Saint-Pierroise qui a battu Niort, club de Ligue 2, en Coupe de France de football.
Un mot sur l'invité, oui, à 8h20, Régis Debray pour son essai « Le siècle vert », un livre à paraître jeudi prochain dans la collection Tract Gallimard.
France Inter. C'est une semaine cruciale qui s'ouvrira demain pour Emmanuel Macron. Des discussions sont prévues mardi avec les syndicats en colère et la grève devrait reprendre dès demain dans de nombreux secteurs, l'éducation nationale notamment, sans parler des deux journées de mobilisation prévues les 9 et 11 janvier. Et avant cette semaine décisive, plusieurs milliers de manifestants étaient de retour hier dans les rues pour réclamer le retrait de la réforme des retraites. 3500 personnes selon la préfecture de police de Paris, moins qu'en décembre, mais toujours aussi déterminés. Ils parient d'ailleurs Rémi Brancato sur un regain de mobilisation dès demain.
À la fin de la manifestation, devant la gare de l'Est, Rodolphe nous lit le message de sa pancarte.
31 jours de grève, on lâche rien.
Ce conducteur de bus de la RATP a déjà perdu un mois de salaire, mais pas question de s'arrêter. Il parie même sur un retour en grève de ses collègues qui avaient repris le travail.
La semaine prochaine, là, tout le monde va entrer en grève. Là, ça va être une semaine noire et même plus. Hein. Plus le temps passe, plus notre détermination est grandie.
Et même si le cortège est moins fourni qu'en décembre, Isabelle, mère de famille, elle aussi, est déterminée.
C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, mais n'oubliez pas que jeudi, c'est une grande date. La grosse manif, j'espère qu'on sera encore plus nombreux que le 5 et le 17 dernier.
Alors chacun espère un rebond du mouvement avec la rentrée demain. Yann Cheminot en appelle aux salariés du privé.
S'il y a bien un vœu à faire, c'est qu'effectivement les grandes boîtes du privé nous rejoignent parce que cette réforme-là, elle concerne tous les travailleurs du pays. On se bat pas pour nos régimes spéciaux, on se bat pour ça.
Et après avoir traversé cette période de fête, obtenir le retrait du projet par Emmanuel Macron devient possible, estime Olivier Besancenot du nouveau parti anticapitaliste.
Il avait fait le pari que l'opinion se retourne aussi contre les grévistes, ce qui n'est pas le cas. Si la mobilisation s'enracine et qu'il y a des problèmes qui commencent à s'accumuler au sommet de l'État, ça en général, c'est les deux conditions réunies pour remporter une victoire.
Et de prendre en exemple la mobilisation de 95 et l'abandon du contrat première embauche en 2006.
Rémi Brancato.
Et toujours au chapitre de cette réforme des retraites, on relèvera ce sondage ce matin dans le journal du dimanche. Le soutien aux grévistes recule fortement.
De retour des fêtes de fin d'année, les Français ne sont plus que 25% à apporter leur soutien au mouvement social. Selon l'IFOP, ce chiffre est en baisse de 6 points par rapport à la précédente enquête du 19 décembre. Mais plus de la moitié des Français, 55%, souhaitent que le gouvernement n'aille pas au bout de la réforme des retraites en l'état. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête après l'attaque au couteau à Villejuif, attaque qui a fait un mort et deux blessés avant-hier. L'homme avait été abattu par la police alors qu'il s'apprêtait à poignarder de nouvelles victimes. Ce jeune homme souffre de troubles psychiatriques avérés, mais il avait néanmoins des motivations terroristes et préparait son acte. Les enquêteurs ont retrouvé dans son sac à dos des écrits qui font penser à un testament, comme en rédigent les terroristes qui s'apprêtent à mourir en martyr. L'enquête va devoir déterminer si l'agresseur a pu être téléguidé par un quelconque donneur d'ordre.
Que s'est-il passé vendredi lors d'une interpellation dans le 7e arrondissement de Paris?
Un homme de 40 ans est hospitalisé dans un état grave après avoir fait un malaise cardiaque pendant un contrôle routier. L'avocat de sa famille, maître Harry Halimi, lance un appel à témoins. Il veut comprendre comment, dit-il, un père de famille sans histoire peut se retrouver entre la vie et la mort après une simple interpellation. Selon la police, le conducteur du scooter était au téléphone lorsqu'il a été arrêté, irrespectueux et agressif selon les forces de l'ordre. Ils ont décidé de l'interpeller pour outrage, puis l'homme a fait un malaise cardiaque. L'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, a été saisie et maître Harry Halimi redoute une possible responsabilité des forces de l'ordre. Il s'en explique.
Ce que l'on sait, c'est que son cerveau a cessé d'être oxygéné pendant plusieurs minutes, ce qui signifie qu'il a peut-être fait l'objet d'un geste technique. Ces gestes techniques, c'est souvent une clé d'étranglement. ça peut être un plaquage ventral. Et ce sont souvent ces gestes qui conduisent à une asphyxie, qui conduisent aussi probablement quelquefois au décès des personnes qui en sont victimes. C'est une hypothèse, hein, rien n'est certain, et c'est la raison pour laquelle nous essayons de collecter les éléments qui nous permettent de comprendre pourquoi un homme de 40 ans, père de famille, sans histoire, se retrouve entre la vie et la mort à l'hôpital après un simple contrôle routier.
Maître Ariel Limi, l'avocat de la famille de Cédric. À l'étranger, la tension monte entre les États-Unis et l'Iran avec cet avertissement brutal de Donald Trump à Téhéran. Si pour se venger de la mort du général Soleimani, tué vendredi par une frappe aérienne américaine à Bagdad, l'Iran attaque du personnel ou des sites américains, les États-Unis frapperont les Iraniens, je cite Donald Trump, plus fort qu'ils n'ont jamais été frappés auparavant. Et le président américain a déjà identifié 52 sites en Iran. Loïc Loury à New York pour France Inter.
52 sites iraniens sont actuellement dans le viseur de Washington. 52 comme autant d'otages américains retenus puis libérés en 1981 à Téhéran. Voilà ce qu'affirmait hier soir Donald Trump sur Twitter. Certains de ces sites, dit le président américain, sont de très haut niveau, très importants pour l'Iran et la culture iranienne. Ces cibles, conclut-il en utilisant des lettres capitales, seront frappées très vite et très durement si Téhéran s'en prend à nouveau aux Américains. Donald Trump justifie par ailleurs une nouvelle fois l'assassinat de Qassem Soleimani, un leader terroriste selon lui, qui préparait de nouvelles attaques. Pas sûr toutefois que tout cela refroidisse les Iraniens depuis la mort de leur chef de guerre. Les appels à la vengeance en effet ont fusé à Téhéran mais aussi parmi les factions pro-iraniennes à Bagdad. L'une d'elles a d'ailleurs appelé, signe funeste, les soldats irakiens à s'éloigner d'au moins un kilomètre des bases qui abritent des militaires américains. New York, Loïc Loury, France Inter.
Une journée catastrophique hier en Australie marquée par 24e décès, les feux ont détruit des centaines de propriétés. Répit relatif ce dimanche avec des températures en baisse et des précipitations en Nouvelle-Galles du Sud. Le temps pour les pompiers, on l'espère, de reprendre le contrôle de certains brasiers. Quand la gastro-entérite s'attaque aux huîtres, les bassins de production contaminés par le virus sont à l'arrêt dans le Morbihan et la baie du Mont-Saint-Michel. Dans une pétition lancée le 1er janvier, l'Alliance ostréicole du Morbihan réclame une indemnisation de tous les ostréiculteurs. Elle met en cause l'État et les collectivités qu'elle accuse d'être incapables de protéger le littoral des rejets humains et de l'assainissement.
Le tout Hollywood va défiler aujourd'hui sur le tapis rouge des Golden Globes.
Et ce sont les premières grandes récompenses de l'année pour le cinéma et la télévision décernées par la presse étrangère d'Hollywood. Des millions de personnes devraient suivre en direct cette cérémonie qui se tiendra à Beverly Hills en Californie. Deux films français sont sélectionnés, nous rappelle Loïc Piala.
Mini tapis rouge et grand moment pour Céline Sciamma et Lajli dans le restaurant où se retrouvent les 5 nommés au Golden Globe du meilleur film étranger. La réalisatrice française aperçoit Pedro Almodovar et se prosterne. Son compatriote serre chaleureusement la main de l'Espagnol. Une nomination au Golden Globe, c'est l'occasion de croiser des monuments. Djibril Zonga, l'un des acteurs des Misérables.
C'est beau, c'est fantastique. C'est qu'est-ce qu'on peut espérer de plus quand on fait un film, aller à Cannes, au Golden Globe, peut-être aux Oscars, c'est magnifique.
Fierté partagée par son réalisateur Lajli, qui représente la France et Montfermeil à Hollywood.
Comme je le dis souvent, il y a encore un an et demi, on n'était pas sûr de faire ce film parce que très peu de gens y croyaient. Et quand on voit le parcours du film, on peut être que content de toute cette aventure.
Les Misérables, les portraits de la jeune fille en feu, la presse étrangère d'Hollywood qui remet ses Golden Globes, a nommé deux films français cette année. L'événement n'a pas du tout l'air d'angoisser Céline Sciamma.
Ça reste très festif, hein. Il n'y a pas de pression. En plus, c'est une année exceptionnelle. Je pense que c'est une année où on a extrêmement peu de chances de gagner. Donc ça enlève aussi beaucoup, beaucoup de la pression.
La Française ne semble pas se faire d'illusions. Elle sait bien que Parasite, Palme d'Or à Cannes et succès en salle aux États-Unis par largement favori. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Et on retrouve Éric Delvaux pour la suite de ce 6-9.
Laurence Thomas pour le journal.